Radio Libertaire 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire.
Poète d'aujourd'hui. Alors, comme à Bonheur FM, on aime la musique, on aime la poésie, c'était l'occasion rêvée d'en parler un peu avec vous. Et nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, car nous savons que votre emploi du temps est surchargé. Vous arrivez d'une tournée en Belgique, vous partez pour une série de récitals au Japon, et entre-temps, vous enregistrez un disque, vous sortez un livre.
Oui, alors je vais vous dire une chose, vous dites que je suis, vous me faites passer pour un personnage extraordinaire, c'est une chose qui a débuté il n'y a pas longtemps, je suis devenu le type extraordinaire, ça m'ennuie parce que je suis toujours pareil moi je suis comme tout le monde, comment dire, c'est difficile à expliquer ça, moi quand j'ai fait ça, je ne pouvais pas faire autre chose.
Oui.
Et d'ailleurs si j'ai fait ça c'est parce que j'avais de la voix, j'ai chanté, j'ai écrit parce que j'avais de la voix, sans voix je n'aurais pas écrit, voilà. Alors, je suis un chanteur.
Ça, on savait.
Oui. Au début, quand je faisais mes chansons, ça passait. J'ai fait des clients petit à petit, quoi. Mais j'étais vraiment le type qu'on regardait loin, comme ça, à la radio. Je passais à la radio, on se poussait les coudes en disant « Oh là là, encore celui-là !» Moi, je savais, quoi. Alors, un jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en plus chez moi. Que les gens m'octroyaient, quoi. J'étais le diable. Alors je suis devenu le diable.
Vous êtes entré dans la peau du personnage qu'on vous prêtait.
Voilà, c'est ça. Mais oui.
Et vous vous y sentez bien?
Oh, moi je suis très bien. De toute façon, je suis très bien et je fais des mots en ce moment. Enfin, le diable, c'est pas mal, c'est une bonne compagnie, quoi.
Le diable m'a dit, Ferré, fais-moi une chanson. C'était une commande. Et puis... une commande du diable, mon Dieu, ça change. Thank you, Satan.
Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portes que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont-en-l'Air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Pour les étoiles que tu sèmes dans le remords des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Satan. prêtre qui s'exaspère à retrouver le doux agneau pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. La sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croix ni rien, sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard, pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Thank you, Satan. Pour le péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour l'ennui qui va paraître au coin des lits où tu n'es plus, pour les ballons que tu fais paître dans le pré comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais à la télévision. Thank you, Satan. Cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire des têtes de mort, le moyen de tourner la loi, et qu'on ne me fasse pointer, et que je chante pour ton bien dans ce monde où les muselières ne sont pas faites.
Satan, moi, ça me plaît bien, parce que je connais Satan, je l'ai rencontré. J'allais faire une émission de radio, au moment où la radio était du côté des Champs-Élysées, la radio française, et j'étais copain avec Breton à ce moment-là, et Breton m'avait dit, vous savez, Léo, il y a rue Washington, un appartement extraordinaire, où il y a des tableaux fantastique, mais des tableaux que personne n'a jamais vus, qui ne sont connus que par la personne qui les a. Alors ça remonte à quand, 17e, 16e siècle, là, comme ça. Et alors, on se demande ce que c'est. J'ai dit, mais vous n'avez pas été voir? Il me dit, ah non, non, je ne sais pas. Ah, bon. Alors j'étais avec lui dans la rue. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui, et puis il n'est pas venu, et je vois un monsieur avec un chapeau, un borsalino, comme on dit, qui me sourit un peu comme ça, hein. Mais un sourire d'ami, comme ça, hein. Bon. Ah, je dis, tiens, c'est bizarre, ça. Et ce type me dit, non, non, rien du tout. Il s'en va, moi, je m'en vais aussi, je dis, tiens, bon. Quelques jours après, je passais exprès, à ce moment-là, aux Champs-Élysées, j'allais du côté de la rue Washington, quoi. Et j'ai vu ce type venir vers moi avec le borsalino et qui me dit, Monsieur Ferré, venez avec moi. Et j'ai eu confiance immédiatement. Je suis rentré dans un appartement gigantesque que je ne m'attendais pas à trouver parce que la rue Washington, c'est pas une rue énorme, n'est-ce pas? Et je suis rentré là-dedans
Et il y avait effectivement des tableaux recouverts de noir. J'ai dit, tiens, ça c'est les tableaux de Breton, quoi. Et alors, il m'arrive et me dit, venez voir. Il me rentre dans une pièce énorme, extraordinairement grande, avec au mur, je sais pas le nombre, parce que c'était des tout petits téléviseurs, des mini-téléviseurs. Hein. Il me dit, regardez. Et au milieu, il y avait un agrandisseur. Il me dit, tout d'un coup, il regarde un truc, sur un truc, et puis une petite mini-télévision, il regarde, regardez là-bas, et regardez. Alors, il agrandit, et je vois, qu'est-ce que je vois ? L'autoroute, et tout d'un coup, un accident abominable. Abominable, avec du sang. Ah ! Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce type quand même? Et à droite de l'écran, il y avait une femme, tout en noir, d'une beauté fulgurante. Toi qui m'écoutes, tu n'as jamais vu une femme comme ça. Ah, j'ai regardé, je lui dis, vous avez vu cette femme, monsieur? Et il me dit, oui, c'est ma seule concurrente.
Signal d'alarme entre un sax baryton et des drums de hasard. J'écris sur un tableau des chiffres et des larmes. Quand vous voulez vous déchiffrer, il est trop tard. D'un crépuscule aux souris anonymes, sous le bec du couchant de mes hiboux de choc, je suis la fleur fanée que la tombe ranime, comme on ranime des idées au five o'clock. Je suis le son perdu au cœur des poitrinaires, quand la seconde s'analyse au fond d'un lit, je t'apporte le dépliant de mes mystères, cours acheter le temps qui te reste. Je vis ma vie de morte au seuil de vos consciences, et les pensées que je vous dois sont formulées à force de terreur envahie par la science. La médecine est une de mes employées. On me force à courir d'un méridien à l'autre, de mes fuseaux sans laine et de ma fausse emblée. Il te reste la dernière heure qui se vautre au bout d'un agenda qui restera fermé. Sur mes Champs-Élysées, il n'y a pas d'étoiles. Sous mes souliers usés, il n'y a plus de jardin. Pour la dernière fois, je te mets à la voile, et le voyage que tu fais ne coûte rien. Mon cœur n'a plus de loi, il ne sait plus chanter. Quand les amants chantent pour moi, c'est de ma rage qu'ils bavent tout le sucre que je ne peux donner. Les jours des pauvres. pauvres bêtes, les chevaux orgueilleux, les oiseaux paradis. J'ai plus de souvenirs que Nana la Villette. J'ai plus de rendez-vous que vous n'en avez pris. Et lorsqu'un assassin vient dans mon monopole faire un extra rougi par le chagrin des gens, j'enrage à la pensée de n'être qu'une idole. Un peu noir, c'est vrai, devant mes concurrents. Je chante avec la nuit des antiennes posthumes et j'interlope le devoir et la raison. Je me mets en veilleuse et quand on me rallume, je suis le dernier flic de la circulation.
C'est un personnage extraordinaire. C'est le côté, c'est le mal, quoi. Le mal, c'est merveilleux. Hein. Tout ce qui est bon est mal. Vous avez remarqué? Tout ce qui est bon au monde, tout ce qui est bon, la gourmandise, c'est mal. L'amour, la luxure. D'ailleurs, la luxure de la gueule, c'est la gourmandise. La luxure, c'est mal. Et ça, c'est extraordinaire et ça marche. Ça, je comprends pas.
Dans tes yeux, le mal qui se traîne comme une idée de crucifix. Dans tes mains, le mal qui se promène avec un vieux rêve rougi. Dans ton cœur, le mal qui se saoule de quelques minutes d'oubli. Et puis, dans l'ombre, le bien qui coule dans la rivière de la nuit. Dans tes yeux, le mal qui se lave dans un coin où je ne vais pas. Dans tes mains, le mal qui se sauve et que tu files entre tes doigts. Dans ton cœur, le mal que consume ce feu qui n'en finit jamais. Et puis dans l'ombre, le bien qui écume comme des chevaux des marées. Dans tes yeux, le mal qui s'habille pour me sortir dans ton pays. Dans tes mains, le mal qui grappille les grappes lourdes de la vie. Dans ton cœur, le mal qui s'achève dans un sanglot et dans un cri. Lorsque dans l'ombre, le bien se lève comme le jour après.
Vous faisiez là dans le collège, vous encaissiez simplement ou est-ce que déjà vous arriviez à manifester votre révolte?
Non, vous savez, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait pas manifester de révolte, c'est pas possible. On pensait même pas pouvoir manifester de révolte, et c'est une chose que je regrette, car j'allais à la messe tous les matins. La messe, pour moi, c'était devenu un endroit comme la, je sais pas, comme football, enfin, vous comprenez, ça m'intéressait pas du tout. Et alors, il fallait que je sois pas dans le coup. Et pour pas être dans le coup, il fallait que je me sorte dans l'esprit, pour l'esprit du monsieur qui était sur une stalle, qui regardait, ça, c'était l'Inquisition. Hein? Et quand les autres étaient debout, je restais à genoux. Quand ils étaient assis, je restais à genoux. Quand ils étaient à genoux, Après, j'étais assis. Ça fait qu'un beau jour, j'ai disparu totalement. J'étais plus dans le coup parce que, vous savez qu'on faisait la communion. Alors, il y avait les zélés, les petits mecs qui faisaient la communion tous les jours.
Ils auraient presque demandé du rabiot, ceux-là.
En regardant, comme ça, en revenant, en fermant les yeux, vous savez, n'est-ce pas, qu'ils allaient ingurgiter. Et puis, il y avait le dimanche, alors c'était pas possible, parce que le dimanche, c'était la fête, alors tout le monde faisait la communion. Alors moi, j'étais arrivé à ne pas faire la communion, même le dimanche. Alors j'étais devenu le mécréant dans l'esprit de certains de ces personnages en noir, que j'appelais les corbeaux un peu pis, parce qu'ils avaient des machins blancs. Eh bien, je sais pas où je voulais revenir, voilà, je lisais. C'est là où j'ai lu des tas de bouquins formidables, c'est là où j'ai lu Voltaire, c'est là où j'ai lu... Même l'incroyable Mallarmé, n'est-ce pas?
Alors vous avez bien dû vous faire voir dans la maison à ce moment-là.
Vous n'y voyez pas que je lisais, parce que je mettais ça dans le livre de messe, vous comprenez? Au fond, j'étais très malheureux quand j'étais petit. Mais après, l'habitude, cette espèce de la crasse de l'habitude, vous savez, c'est terrible, la crasse de l'habitude. Car on n'éprouve pas le besoin de se laver ses habitudes. Vous voyez, on reste sale de ses habitudes. La saleté conserve, n'est-ce pas?
Alors déjà, à ce moment-là, au fond, cette carapace de solitaire... Vous commencez à la construire, à la bâtir autour de vous. Vous vous isolez un petit peu des autres. Surtout, oui. Vous avez un courage qui est énorme pour un gosse de cet âge-là. Et un gosse soumis quand même à une force du milieu écrasante, il faut bien dire ce qui est, dans le genre de collège que vous nous décrivez. Vous avez quand même le courage de ne pas abdiquer, de ne pas devenir le petit passif dont vous parliez tout à l'heure, et d'être celui qui lit Voltaire dans son livre de messe.
Oui, mais alors, vous allez, je m'excuse, hein. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite, qui est une chose importante, dont je me suis lavé, n'est-ce pas? C'est le péché. Car ces gens-là, vous apprenez le péché. Le péché, c'était abominable, n'est-ce pas? On se confessait toutes les semaines, n'est-ce pas? Il y avait un abbé qui sentait mauvais de la bouche, c'était affreux. Alors, il n'y avait pas de gris, n'est-ce pas? Je dis tout, je m'excuse.
Non, au contraire.
Il n'y avait pas de cris, alors ce type, on recevait sa manne plein là. Hein? Bon, je faisais des sacrilèges, je mentais à la confession. Hein? J'allais dire confection, c'est bizarre.
Vous confectionnez des mensonges.
C'est ça, oui. Je mentais. Et puis, j'avais fini par communier. Le matin, je bouffais des dentifrices ou je buvais de l'eau, parce qu'il ne fallait pas. Vous voyez,
hein?
Et vous savez, je crois que pour moi, la grande chance, c'est d'être sorti du péché, tout en gardant quand même certains goûts pour les certains interdits et ce qui fabrique et ce qui maintient l'érotisme, car aujourd'hui l'érotisme s'en va de plus en plus, il n'est plus que dans les livres. Et c'est vrai, le péché, c'est important. Mais si j'étais pas sorti, si je ne m'étais pas sorti du péché, j'étais un petit foutu, quoi.
Tout ce qui est mal, c'est bon. Alors, tout ce qui est bon, c'est mal. Alors, donne-toi. La damnation pour un triangle qui s'en va sous ta voie lactée. La damnation pour un triangle qui s'en va sous ta voie lactée. Géométriquement ressemble aux communiants du mois de mai. Géométriquement ressemble aux communiants du mois de mai. Avec leurs péchés de principe et leurs mains dans les nuits fusains, à ombrer sous leurs pauvres nippes des désirs tachés de frangins, ils sont damnés. Leurs doigts comme des cathédrales chantent des gestes de granit, leurs doigts comme des cathédrales. chante des gestes de granit. Et des mosaïques d'étoiles, arc-en-ciel, leur ciel de lit. Et des mosaïques d'étoiles, arc-en-ciel, leur ciel de lit. Je suis damné pour un pétale de cette rose qui grandit et qui te pollène le châle dont tu as revêtu ma nuit, dont tu as revêtu ma nuit. Je suis damné. Pour une source où coulent des grains de velours, la damnation pour une source où coulent des grains de velours. Dans ta main et puis dans ta bourse, comme une monnaie au long cours. Dans ta main et puis dans ta bourse, comme une monnaie au long cours. Ton désespoir comme une étoile assassinée depuis longtemps. Géométriquement s'étoile à des millions d'années d'amour. Tu es damné. Tu es damné. Damné, 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 damné. Tu m'aimes, et c'est pour l'habitude à t'empaler sur mon sarment. Et c'est pour l'habitude à t'empaler sur mon sarment. Ma vigne coule et puis s'élude en des filaments de serments. Ma vigne coule et puis s'élude en des filaments de serments. Mon suc te remonte à la gorge avec son goût d'entre des coups. C'est l'éternité qui dégorge, et la mort qui tire son coup, et la mort qui tire son coup. On est damné, viens, viens, tout ce qui est mal, c'est bon, donne-toi, on est damné, viens, viens, tout ce qui est bon, c'est mal, donne-toi, donne-toi, on est damné, viens.
Quand on est arrivé à la gare, ma mère dit « Voilà, monsieur. » « Non !» Alors, qu'est-ce que je vois là? Un mec. Parce que moi, dans la rue, je regardais les femmes et pas les hommes. Et là, j'ai vu un homme avec une robe qui avait dû être noire. Je sais pas comment elle était un peu... Il y avait de tout dedans, quoi. Tout du jaune, du machin, du violet, mais pas l'autre violet, hein. Et puis, avec un rabat qui avait dû être blanc aussi. Alors là, il n'y a pas de problème. Pour voir s'il était blanc, il fallait vraiment chercher, hein. Il fallait aller comme ça, moi je n'osais pas parce qu'il y avait toutes des dégueulasseries dessus, de petites merdes et tout ça. Et alors, j'ai regardé ce type, j'ai regardé ma mère, et je me suis dit, mais c'est un homme qui a une robe. Oh, comment ça se fait ça? Et ma mère lui dit, voilà, monsieur. Non, madame, cher frère. Si tu n'as jamais vu le frère des écoles chrétiennes, même dans un bocal, il faut y aller, il faut les voir. Hein. Ça vaut le coup, hein. Crois-moi, hein. Ça vaut le coup. Et alors, ma mère me dit non, madame, cher frère. Voilà, cher frère, je vous apporte Léo Ferré. Non, madame. Ma mère me regarde, je la regarde, elle me regarde, je la regarde, je la regarde, je la regarde. Léo 38. Je suis appelé ça faisait drôle. Et après, je me suis fait, parce que il y avait élevé les autres. Il y en a un qui s'appelait 17, l'autre qui s'appelait 22, il y en a un qui s'appelait 177. Et puis, il y en a un qui est, pourtant il était con, hein, qui avait poussé la pression jusqu'à s'appeler 68. Ah! Et alors là, voilà. On était en prison. Les enfants en prison, ils savent pas qu'ils sont en prison. Les hommes qui sont dans les prisons des hommes, ils savent pourquoi d'abord. La plupart du temps, puis ils peuvent, comme je dis, cracher mentalement à la gueule de ceux qui les ont mis, de ceux qui les maintiennent, hein, n'est-ce pas? Tandis qu'un enfant, il sait pas. Non pas parce qu'il a pas de salive, il en a, hein. Mais il y pense pas, parce qu'il croit pas qu'il est en prison. Il souffre sans savoir que c'est une prison. Moi, il y avait des murs de 2,50 m ou 3 m, je me souviens pas, en pierre. Et j'ai pas le souvenir d'un copain qui était faire le mur, quoi. Une fois, j'ai essayé de faire le mur, on part le portail. Alors, ils m'ont pris tout de suite, quoi. Mais vous savez pourquoi? Les enfants, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. En tout cas, quand j'étais petit, moi. Quand j'étais petit. C'était pas drôle. Pas du tout. Les enfants, malgré un livre où j'avais lu, quand j'avais 12-13 ans, un livre où le titre disait que les enfants étaient des philosophes et des poètes. Les enfants, vous savez ce que c'est les enfants? Le drame des enfants, c'est qu'ils sont des enfants.
C'est un Don Quichotte, Léo, hein? Il met son masque, met sa pointe, prend son feu, il est parti. Et il attaque. Je crois que ça a deux explications. Il y a celle de l'homme qui doit une revanche à la vie et à la meilleure des vies qu'il avait en lui. Et par ailleurs, ça fait partie de son véritable tempérament. Il y a une combinaison des deux qui fait que lorsque Léo était en scène, il partait en guerre. Un jour, lors d'un spectacle que je l'avais accueilli, il y a eu un moment extrêmement fort, nous étions dans la salle du bas, à Serein, et on attendait de commencer le spectacle, et donc on a commencé comme ça, à parler de choses et autres, et tout d'un coup, il a éclaté, et il est donc revenu sur quelque chose qui l'avait complètement sidéré quand il était au collège, c'était la résignation. On disait aux chrétiens qu'il fallait être résigné. Il dit, tu te rends compte? Tu dois la fermer, point, c'est tout. Dieu! Et nous avons eu une très très grande discussion sur ce que t'es être homme et se battre pour la vérité. Et puis tout d'un coup, le responsable du spectacle descend les escaliers, il y a un escalier de bois, il dit, viens, il est temps de monter pour aller chanter. Léo crie, tais-toi! On parle! Et bon, puis après, il dit, ben, on va chanter. Il monte les escaliers, il va chanter. Popol au piano, moi je conduisais Popol Castagné par le bras, puisqu'il était aveugle, j'avais mis au piano et Popol jouait. Donc, et quand il jouait, je mettais près de la coulisse et il parlait avec la coulisse, il me mettait dans la coulisse et il parlait. Alors Popol jouait, il dit, oh là là, sublime aujourd'hui qu'il est. Hein. Il jouait sublime. Oh, pas résigné pour un sou, hein. Il tapait, il jouait. Et je crois que Popol résumait en une seconde tout ce qui s'était passé. Puis Léo est redescendu en disant, ah, j'étais affreux.
Monsieur Toublanc, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Toublanc, la charité, c'est très gentil, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi, je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Toublanc, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Toublanc, entre nous dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez.
pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Toublon, si vous partez un beau matin les pieds devant pour vos châteaux en paradis, monsieur Toublon, le paradis, c'est peut-être joli. Priez pour moi. Moi, j'ai pas le temps. Tard, je vivrai toujours à Aubervilliers. Avec deux bras noués autour de ma misère, on n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur Toublon, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, monsieur Toublon, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Un jour, Jean-Roger Cossimon lui disait dans une conversation, en fait, moi, tu sais, je suis un confraternel, je suis un gentil. Il y a quelque chose comme une responsabilité en moi, disait Jean-Roger. Et on le regardait et lui dit, je t'aime. Et moi, je pensais, Léo, c'est un homme qui a pris toute sa vie comme étant responsable du monde. Il n'y a pas un moment qu'il l'ait lâché en se disant « Je suis responsable », il l'a dit un jour, « du genre humain ». Je n'ai pas orgueilleux, hein, c'était lui. Je crois que les prophètes et les poètes, c'est les mêmes. Ce sont des gens qui sont partis en guerre pour dire une vérité que personne ne peut leur enlever parce qu'ils sont les seuls à pouvoir dire quelque chose. Et le dire comme ils le disent, dans cette parole nue, audacieuse, vivante.
Misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au pas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent plus, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des suppliciés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à Monseigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en séride. Quand il ne leur restait que ça, Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi. Traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. Ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres, parfois, comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux rôtant tout seul dans sa mangeoire vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence. Il suffit de trouver quelques pendus d'avance.
Par tous les bouts, copains tirons les 400 coups. Sonner à la porte du diable, comme on sonnerait le pasteur. Être le 13e à sa table, même si ça doit porter bonheur. Ouvrir le bottin des misères. À la page 89, dire à monsieur de Robespierre, faites-nous des habits tout neufs.
S'il faut tirer par tous les bouts,
copains, tirons les 400 coups. Téléphoner à la grande ours pour y louer un appartement. Comme il faudra faire nos courses, mettre des rails au firmament, pousser des ailes à nos épaules et s'enrôler dans l'armée de l'air, lâcher d'en haut des carmagnoles et des paras sur le tonnerre.
S'il faut tirer par tous les bouts, copains.
Donner aux brebis des bergères, aux chevaux des maquignons frais, aux chiens les flics de la fourrière, aux baleines les baleiniers, aux oiseaux le permis de chasse, aux enfants les parents mineurs, aux souris le matou d'enfance, aux matous les toits du bonheur.
S'il faut tirer par tous les bouts,
copains, tirons les 400 coups. Aller au cinéma palace et s'engouffrer dedans l'écran, prendre Bardot par la tignasse et la carrer dans nos divans. Faire l'amour à l'algébrique avec les inconnus du coin et d'un triangle nostalgique faire des petits républicains.
S'il faut tirer par tous les bouts,
copains, tirons les 400 coups. Unir en cœur tous les poètes, avec des mots, leur recommander des chansonnettes, on déduira de leurs impôts, mettre un bicorne à la romance et l'amener à l'institut avec des orques. Et que ça danse. la poésie est dans la rue. S'il faut tirer par tous les bouts, amis, tirons les 400 coups, amis, tirons.
Si vous lisez ce qu'il a écrit, au-delà de la parole, il était un grand poète. Et vous savez pourquoi il était un grand poète? Parce qu'il était aussi un grand musicien. Et que je crois que le véritable poète, ce n'est pas celui simplement qui a le mot, qui a le cri, mais c'est celui qui a la musique. Je ne connais pas ses limites. Il n'en avait pas. De temps en temps, d'ailleurs, c'est peut-être négatif, mais il n'en avait pas. Et quand j'essaye de rentrer dans mes propres limites, je me dis, ben, je n'ai pas fini de l'aimer, je n'ai pas fini de le découvrir. Il avait peur d'être là, de ne plus rien faire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, le jour où je ne ferai plus rien, je me couche comme un cheval et je meurs. C'est ce qu'il a fait. Hein? C'est comme ça qu'il a fait. Il a dit, boum, c'est fini. Il s'est couché. Il s'est laissé mourir. Ça, c'était lui. Le temps qui passe, non. Ne plus rien faire, oui. Je crois que Léo a voulu. Je crois que Léo était le cri incarné. Quand il ne criait plus, c'est fini, il était mort.
En même temps que vos impôts, vous pouvez faire monter vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères, il y en a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour, nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Il y en a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos destins, nous autres, on compte vos secondes, il y en a marre, il y en a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, a découvert dans le coton des blancs jouant avec la trique. Il y en a marre. Il y a quelque temps, monsieur Franco, à peu près autant des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Il y en a marre. Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont vous tomber sur la gueule. Il y en a marre. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait, la lune, pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte. Et il n'y en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe, il y en a marre. Est-ce qu'elles vous ont fait les étoiles pour vouloir leur filer les miches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches, il y en a marre. Qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait, les hommes, pour vouloir leur filer la cerise? C'est peut-être des poires, c'est peut-être des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Il y en a marre. Il y en a marre. On vit, on mange, et puis on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant? et que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements. Y en a marre. Qu'on vive à Paris ou à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on soit sans un ou plein de fafio, la société, c'est pas de la tarte. Y en a marre. Mais peut-être qu'un jour, le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans vos ruines. Y en a marre. Y en a
le voit dans le rôle de Don Quichotte, comme je l'ai dit. Quand il va mourir, il enlève son masque, sa pointe, il expose tout et il va mourir. Alors Sancho, dans la fameuse adaptation d'Yves Jamiac, Sancho vient trouver et vient lui dire: maître, vous n'allez pas mourir. Si vous mourrez, qui va défendre le monde? Qui va défendre les pauvres, les malheureux? Debout, il nous reste encore tout à faire. Alors, Don Quichotte appelle Sancho et dit: je meurs par stratégie. Va m'attendre près de mon cheval, j'arrive. Et puis dans un dernier cri, on entend quelqu'un qui dit: je viens. Je crois que Léo, il est comme Don Quichotte, je viens. Parce que je crois que c'est ça le poète aussi. J'ai parlé tantôt de prophète et de poète, mais c'est ça le poète. C'est celui qui vient toujours. Les dictateurs peuvent tuer tout le monde, les torturer et les tuer, les poètes viennent toujours. Pour dire quoi? La mort? Non. Oui, pour décrire la mort et la tragédie du monde. Mais à travers cette tragédie du monde, c'est toujours la vie qu'ils disent. C'est ça les poètes. Et c'est pour ça qu'ils ne meurent jamais. Il lui arrivait en quittant la scène de faire ça à son public. C'est « Je t'aime ». Et la dernière fois, il est venu à Liège, c'était son dernier concert à Liège. Il avait déjà des trous de mémoire, il avait son papier, il a pris son papier, il s'est trompé, il a repris sa chanson. Et le temps qu'il prenne sa chanson, il y a quelqu'un dans la salle qui a crié: vas-y, Léo, on t'aime. C'est beau. Le public lui avait renvoyé ce qu'il avait donné toute sa vie.
Ni Dieu, ni maître.
La cigarette sans cravate. On fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Que l'on dit de justice et qui pousse dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait pire les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître.
C'est ce qui manque dans ce monde.
Hein?
C'est ce qui manque.
L'intelligence. Hein? La connerie, c'est trop vivant, trop présent.